BW. Magazine Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Troisième volet cette semaine de notre série sur les médicaments. Après avoir parlé des problèmes que soulève l'automédication, nous abordons dans ce numéro un autre versant négatif lié aux remèdes, à savoir la consommation de faux médicaments. Et nous vous proposons également de mieux comprendre ce qu'est l'industrie pharmaceutique, une industrie si souvent décriée. La période que nous traversons avec le Covid-19 ne fait pas exception à la règle. C'est Constance Fischer au micro. Bienvenue à l'écoute de votre magazine Santé.
Les médicaments de la rue ont des conséquences néfastes. C'est pas bon.
Faux médicaments, médicaments falsifiés ou contrefaits, des expressions synonymes pour décrire finalement un même fléau, meurtrier mais hautement lucratif et qui résiste encore aux nombreuses luttes qui se mènent en Afrique. Rodrigue Kizodje nous emmène au Bénin, un pays qui pendant longtemps a été l'une des plaques tournantes de ce trafic. Et vous allez l'entendre, certaines voix dans son reportage ont été modifiées à la demande de ses interlocuteurs. Quand il parle de faux médicaments, certains préfèrent rester prudents.
En plein cœur de Cotonou, la capitale économique du Bénin, s'anime l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest. Au cœur du marché d'Antokpa se trouve un vaste secteur spectaculaire appelé Adjegunle, anciennement une grande porte d'entrée de faux médicaments au Bénin et dans plusieurs autres pays d'Afrique.
Il y avait toutes sortes de médicaments ici, même les produits qu'on ne retrouvait pas dans les pharmacies. De l'antibiotique, de l'antipaludéen, de l'anti-inflammatoire, des stimulants sexuels, même de l'éthanol de très bonne qualité, on retrouvait tout ça dans ce marché.
Ce marché d'Adjegunle, Kofi le maîtrise mieux que quiconque. Celui qui se faisait même appeler docteur a été pendant une vingtaine d'années vendeur puis intermédiaire entre les clients étrangers et les grossistes.
Notre activité était bien structurée et rentable. Maintenant, les choses ont changé, comme lui.
Dame Mariam, que nous avons rencontrée à Porto Novo, la soixantaine, avec 30 années passées dans cette activité, a dû se reconvertir dans le commerce depuis que le gouvernement a décidé en 2016 d'en découdre avec la filière faux médicaments. Cependant, elle croit toujours à l'efficacité des produits qu'elle a vendus.
Bon, les produits que vous voyez avec moi, c'est même déjà périmé. Je voudrais même les brûler. J'ai le Tripuata, j'ai le Nufrilin, c'est un produit de la pharmacie. J'ai Ubicap, Apetin. Si tu veux sauver ton enfant et tu prends ça, il va bien manger, bien dormir. Il y a Prado Cap, c'est pour l'ucelle. Et ça se vend même dans les pharmacies. Plus cher que ce que nous vendons dans les marchés. Ce n'est pas les faux médicaments. Hein. Ça rend beaucoup de services aux gens, surtout les gens du village viennent s'approvisionner, même ça guérit même plus que les produits des pharmacies.
Ces genres de raisonnement ont encouragé pendant longtemps plus de 85% de Béninois à préférer s'approvisionner en médicaments sur le marché parallèle, selon le ministère de la Santé. Et ce commerce, qui représente plusieurs milliards de francs CFA au profit d'une filière bien enracinée, a fini par céder face à une opération qui a permis de détruire plus d'une centaine de tonnes de faux produits pharmaceutiques. Beaucoup n'avaient pas compris jusqu'alors ce qu'il y avait de faux dans ces médicaments. Raïma Raymond Malik est responsable d'officine et syndicaliste dans le secteur pharmaceutique. Elle explique donc que doit être considéré comme faux tout médicament n'ayant pas respecté un circuit de distribution conventionnel et officiel.
Soit fabriqué dans un laboratoire agréé, la fabrication dans les normes pharmaceutiques et les essais cliniques réalisés, la vérification de la qualité de ce médicament par un laboratoire de contrôle de qualité, un médicament ayant une autorisation de mise sur le marché donnée par l'autorité de régulation.
Ce qui n'est pas bien différent des produits dits falsifiés.
Le médicament falsifié, c'est une copie du médicament officiel. On le prend, le CACML ou le Feralgan, on va le copier ailleurs. Même boîte, même forme, toutes les inscriptions, quand on les compare, c'est la même chose. Mais ces médicaments sont fabriqués dans des laboratoires non agréés. Ces médicaments portent un dosage qui est faux. Il peut même ne pas avoir le principe actif du médicament dedans. On appelle ça effet placebo. Les récipients pour la conservation du médicament, ce ne sont pas les mêmes.
Et c'est justement ce qui fait la dangerosité de ces catégories de produits. Falsifiés ou de mauvaise qualité, leur impact sur l'organisme est souvent dramatique, comme l'explique Anissé Kolaole Elegbede, médecin à Cotonou.
Ces médicaments peuvent entraîner d'emblée la mort. Dans les cas de médicaments où la personne fait une overdose, la personne peut en mourir. Ou bien ça agit sur l'organisme en atteignant d'abord le foie et après les reins.
Et pour Razak Hosseini, spécialiste en toxicologie, le premier organe représente l'usine qui traite tout élément venant de l'extérieur dans le corps humain. C'est pourquoi il est exposé aux déchets de 80% des médicaments pris par voie orale.
Une fois que le médicament qui est probablement faux vient, il est surdosé parce qu'on se dit, n'est-ce pas, qu'on veut l'effet rapidement, mais surdosé, comme il doit rencontrer le foie, il bousille en même temps les cellules hépatiques. On appelle ça une cytolyse hépatique foudroyante. Vous n'aurez même pas l'effet, c'est la mort directe.
Et si le foie parvient à traiter le médicament pour libérer la molécule active qui doit soulager le mal, c'est le rein qui devient le dernier rempart. Ce filtre est fortement sollicité, comme chez les cas que traite Dr Jacques Vigan à la clinique universitaire de néphrologie et hémodialyse du CNHU de Cotonou.
Pour ce qui concerne l'atteinte rénale, ces produits d'origine douteuse peuvent occasionner une insuffisance rénale aiguë, bloquant les reins, empêchant ainsi l'élimination des déchets par les urines. C'est le recours au traitement qu'on appelle l'hémodialyse qui permet d'améliorer progressivement la fonction rénale.
Dans nombre de cas, il est difficile pour ces médecins de sauver les patients. Malgré toutes ces conséquences et en dépit des nombreuses mesures prises pour réprimer et sanctionner non seulement les acteurs du commerce, mais également les consommateurs, le fléau résiste et prend de nouvelles formes.
Il n'y a pas de raison, c'est les conditions socio-économiques.
Il y a lieu toutefois de maintenir la veille et développer de nouvelles stratégies pour réussir à éradiquer ce commerce illicite. Rodrigue Zodier à Cotonou pour la Deutsche Welle.
Covid-19, règles et conseils. Se laver fréquemment et soigneusement les mains. Éviter au maximum de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Respecter les règles élémentaires d'hygiène. Éternuer et tousser dans un mouchoir à usage unique, jetez-le immédiatement ensuite. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pli de votre coude. Évitez les grands rassemblements, les activités non indispensables. Maintenez une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui vous entourent. Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades. Évitez de fréquenter des personnes fragiles. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de problèmes respiratoires, appelez votre médecin. Évitez tout contact inutile avec les animaux sauvages. Pensez à suivre les instructions des autorités sanitaires de l'endroit où vous vivez.
Sanofi, Bayer, Merck, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces grands noms de l'industrie pharmaceutique. Ce sont eux qui trouvent, fabriquent et commercialisent l'essentiel de vos médicaments. Un secteur économique qui brasse énormément d'argent et qui se retrouve régulièrement au centre de polémiques en raison de son influence sur les professionnels de la santé, mais aussi sur la classe politique. Écoutez ce qu'en dit Boris Auret. Il est sociologue et chargé de recherche à l'INSERM. C'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France.
L'influence de l'industrie pharmaceutique sur la médecine est très forte, dans le sens où elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle touche toutes les strates de la médecine. La dénonciation de l'influence des industries pharmaceutiques s'est développée de façon croissante au cours des dernières décennies. Cette critique s'est renforcée d'abord au sein même du monde médical à partir des années 90, en lien avec la financiarisation des grands laboratoires pharmaceutiques, avec la mise sur le marché de médicaments à l'intérêt thérapeutique marginal, qui ont poussé les industriels à intensifier leur effort marketing, et aussi du fait de la prise de conscience du rôle de pilote pris par les industries pharmaceutiques dans la production des savoirs. Cette défiance est devenue publique à partir des années 2000 et elle est survenue d'un certain nombre de scandales. Par exemple, à propos de l'anti-inflammatoire Vioxx, à propos des antidépresseurs ou en France à propos du Mediator. Ces scandales ont en effet donné lieu à des poursuites judiciaires qui ont permis de documenter les stratégies des laboratoires visant à exagérer les bénéfices de leurs traitements ou à en minimiser les risques, mais aussi leurs efforts pour influencer les prescripteurs et leurs liens avec certains experts.
Entre médecins et industrie pharmaceutique, où se situent exactement les conflits d'intérêts?
Il peut y avoir des contradictions entre les intérêts des patients, que doivent défendre les médecins, et ceux des industries pharmaceutiques, qui sont des entreprises commerciales, dont l'objectif premier est donc bien sûr le profit. L'intérêt de ces laboratoires est de favoriser des réponses médicamenteuses aux problèmes des patients, et surtout de voir les médecins prescrire avant tout des médicaments chers, donc généralement des médicaments récemment commercialisés, et qui parfois apportent des avantages faibles par rapport aux médicaments existants, et, puisqu'ils sont moins connus, représentent un nouveau risque. Quand on parle des conflits d'intérêts des médecins, on désigne donc des situations qui pourraient les conduire à prendre indûment en compte dans leur jugement ou dans leurs décisions concernant leurs patients, qui est leur intérêt premier, des intérêts seconds. Parmi ces intérêts seconds, on porte une attention particulière à leurs liens financiers avec les industries pharmaceutiques. Ceux-ci peuvent être tissés au cours de la conduite de la recherche, à travers leur financement de participation à des congrès, ou prendre la forme de paiement de repas, par exemple, lors de la présentation par les industries de leurs médicaments aux médecins.
Est-ce qu'il existe des moyens pour les professionnels de la santé de se prémunir, disons au moins en partie, de l'influence de l'industrie pharmaceutique et de ses lobbies ?
Il faut tout d'abord une plus grande prise de conscience chez les professionnels de santé de l'importance des liens financiers qu'ils ont avec l'industrie pharmaceutique et de leurs possibles conséquences. Les professionnels de santé ont tendance à estimer que leur jugement n'est pas impacté par ces liens. Dans ce cadre, les dispositifs de transparence qui obligent les industriels à déclarer leurs liens financiers avec l'ensemble des professionnels de santé sont intéressants. Cette transparence permet non seulement de mesurer ces liens financiers, mais ils permettent aussi une vigilance publique plus forte de la part des médias ou d'ONG. Il faut que les professionnels de santé aient accès à des sources d'informations indépendantes. Mais cela nécessite aussi, et plus largement, une plus grande implication des acteurs publics dans la recherche clinique et le développement des médicaments, ainsi que dans la formation continue des médecins.
La crise sanitaire actuelle et puis aussi la course contre la montre pour trouver un médicament contre le Covid-19, tout ça, est-ce que ça risque pas de renforcer encore la méfiance des populations face au laboratoire ?
Il est difficile d'anticiper l'effet que va avoir la crise liée au Covid-19 quant au regard qu'ont les populations sur les laboratoires pharmaceutiques. D'un côté, l'attente forte qui existe aujourd'hui envers la mise en point d'un traitement ou d'un vaccin préventif peut offrir aux laboratoires des opportunités pour améliorer une image qu'ils savent détériorer. De l'autre, bien sûr, la forte attention médiatique sur cette mise au point d'un traitement ou d'un vaccin met à nouveau en lumière les problèmes de conflit d'intérêts. La volonté des industriels de prendre une part du marché potentiel que va représenter ces traitements ou cette vaccination et d'en tirer des profits va effectivement probablement susciter des dénonciations. Dans ce cadre, un enjeu essentiel sera le prix qui sera fixé pour ces produits et la capacité effective qu'auront les différentes populations autour du globe à y avoir accès rapidement.
Merci au chercheur Boris Auret et merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Carole Assignon pour le dernier volet de cette série sur les médicaments. Carole qui se penchera notamment sur l'usage de certaines drogues pour soulager les douleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et restez à l'écoute de la DW.